L'actualité francophone, la Belgique, le Tour de France 2019 s'élancera de Bruxelles pour célébrer le cinquantenaire de la première victoire d'Eddy Merckx. En France, la justice ouvre une enquête préliminaire sur les activités passées de Richard Ferrand, ministre proche d'Emmanuel Macron. Premier accroc sérieux en ce début de quinquennat. La Suisse, polémique à propos du renouvellement des avions de combat. L'Afrique, le Maroc, manifestation dans le nord du pays, dans le RIF, pour dénoncer la corruption et l'abandon économique de cette région pauvre. Le Canada, une enquête très attendue sur les femmes autochtones assassinées ou disparues. D'abord les portraits de la semaine en Afrique. Charlotte Hydrac, Jean Rouche, il aurait eu 100 ans cette semaine.
Oui, le cinéaste et ethnographe français, un grand amoureux de l'Afrique, il avait attrapé le virus du cinéma au Niger sur un chantier dans les années 1940. Et cela en assistant à un rituel pour le génie du tonnerre qui venait de foudroyer 10 ouvriers. Jean Rouche a inventé un genre, le cinéma vérité. Il a laissé une œuvre de près de 140 films, notamment sur les rites Dogon au Mali et inspiré de très nombreux cinéastes sur le continent.
L'homme de la semaine en France a provoqué l'indignation des internautes. Maxime Amou, 21 ans, joueur de tennis, éliminé dès le premier tour de Roland-Garros. Une journaliste d'Eurosport l'interviewe en direct. Il l'attrape par l'épaule, l'embrasse dans le cou plusieurs fois, alors qu'elle tente de se dégager. Le tout sous les rires et applaudissements d'autres journalistes en studio. Bref, la bêtise et la grossièreté à l'écran. Non, une agression en direct n'a rien de drôle. Ne jamais laisser faire, ne jamais banaliser de tels actes. Réaction sur Twitter de la ministre des Sports, Laura Flessel, a mis 12 heures pour enfin présenter ses excuses à la journaliste d'Eurosport. En Belgique, Nathalie De Vic, la personnalité de la semaine, un arrêt sur image qui a fait beaucoup de bruit.
Oui, tellement de bruit que notre Premier ministre risque de s'en souvenir longtemps. Un Charles Michel grimaçant aux côtés de la princesse Astrid, la sœur du roi, qui donne le départ de la course à pied des 20 km de Bruxelles en tirant à blanc son coup de pistolet un peu trop près du tympan du Premier ministre. Résultat, oreille qui siffle, trouble sévère de l'audition, au point de devoir annuler son programme politique de la semaine pour se faire soigner. Il va mieux, rassurez-vous, mais les photos témoignent du choc, près de 120 décibels. La princesse s'est dite désolée d'avoir involontairement cassé les oreilles du chef du gouvernement.
Benoît Audet, au Canada, vous avez choisi la nouvelle commissaire aux langues officielles.
Oui, elle s'appelle Madeleine Meyer. Elle vient d'être nommée par le gouvernement Trudeau et sa nomination est décriée par les partis d'opposition. On accuse le gouvernement d'avoir procédé à une nomination partisane alors que le poste de commissaire aux langues officielles doit être apolitique. Madeleine Meyer est une ancienne ministre libérale de l'Ontario. Le rôle du commissaire aux langues officielles est de protéger les minorités linguistiques du Canada. La prochaine manche de cette bataille va se jouer au Sénat où la nomination de Madeleine Meyer pourrait carrément être bloquée.
La Suisse, Pierre Chauffat, personnalité de la semaine, l'écrivain Charles-Ferdinand Ramu, et il refait parler de lui 70 ans après sa mort.
C'est de son héritage qu'il s'agit, ou plutôt du lieu où il a écrit des romans célèbres comme Derborance ou La Grande Peur dans la montagne, situé à Puy, près de Lausanne. Sa maison est restée plus ou moins en l'état jusqu'à aujourd'hui, avec son mobilier. Son arrière-petite-fille veut y développer un petit musée autour du bureau de Ramu, situé à l'entresol. Les étages supérieurs seraient, eux, transformés en appartements. Les puristes crient au sacrilège et dénoncent un projet minimaliste. C'est l'esprit de la maison, l'appartement où Ramu a reçu Cocteau et Gide qu'il faudrait sauvegarder, mais rien n'indique que leur pétition munie de 1200 signatures puisse infléchir les héritiers de l'écrivain vaudois.
L'actualité en Afrique, Charlotte Hydrac, direction le Maroc et la contestation dans le RIF.
Cette région au nord du royaume secouée depuis des mois par des protestations, cela a commencé en octobre avec la mort d'un vendeur de poissons broyé dans une benne à ordures et cela alors qu'il tentait de récupérer sa marchandise confisquée par la police. Le mouvement ensuite a pris une tournure sociale et politique pour plus de développement dans le RIF qui s'estime marginalisé, abandonné et dans la ville d'Al-Hoceima, tous les soirs cette semaine, les manifestants sont descendus dans les rues après la rupture du jeûne du Ramadan.
Il n'y a pas de lieu université. On n'a pas d'argent, on n'a pas de moyens.
Et si on n'a rien, on n'a rien. On travaille pour 5 euros pour un jour. On n'a rien.
Bah, nous ne sommes pas des séparatistes. Nous appartenons à l'État marocain. On ne revendique que des revendications sociaux, économiques, culturelles. C'est tout.
On va sortir tous les soirs jusqu'à la libération des détenus politiques. On va rester indéfiniment. C'est un combat qu'on va lutter toute notre vie.
La détermination donc et des frustrations qui ne datent pas d'hier. La région enclavée est réputée frondeuse. Le leader de la contestation, Nasser Zefzafi, qui était devenu un porte-parole sur les réseaux sociaux, a été arrêté en début de semaine comme le noyau dur du mouvement. En face, les autorités marocaines sont restées muettes ces derniers jours.
En France, tout au long de la semaine, les rebondissements de l'affaire Richard Ferrand, ministre de la Cohésion des Territoires et fidèle de la première heure d'Emmanuel Macron. Il est mis en cause dans une affaire immobilière privée dans laquelle il aurait favorisé ses proches. Histoire pas très morale, mais qui, semble-t-il, n'est entachée d'aucune infraction, rien d'illégal. Problème, les combines choquent les électeurs traumatisés par les affaires Fillon et Le Pen qui ont marqué la campagne présidentielle. La presse multiplie les révélations, quitte à parfois confondre le soupçon et la preuve. En début de semaine, le Premier ministre Édouard Philippe est interrogé à la télévision. Richard Ferrand peut-il rester au gouvernement ? Réponse.
Oui. Et je dis oui après avoir parfaitement compris et avoir parfaitement conscience de l'exaspération des Français, de leur émotion, de leur agacement devant ces mises en cause successives qui leur donnent l'impression que les élus qu'ils désignent par l'élection ne seraient pas aussi droit que ce qu'ils peuvent attendre et ce qu'ils peuvent espérer.
Quelques jours plus tard, Richard Ferrand est notre invité sur France Inter et explique pourquoi il exclut de démissionner.
Mais je ne le ferai pas pour deux raisons. D'abord, j'ai ma conscience pour moi. Je ne suis pas mis en cause par la justice de la République, que je respecte profondément. Mais voyez-vous, aujourd'hui, je suis venu vous répondre parce que je comprends que petit à petit, le doute a été créé. Et le doute, c'est un poison. La suspicion, c'est un poison de la démocratie. La question, elle est-ce que je suis un homme honnête ou pas ? La réponse, oui, je suis un homme honnête.
Finalement, jeudi, la justice décide d'ouvrir une enquête préliminaire dans l'affaire immobilière impliquant Richard Ferrand. Ce feuilleton politico-judiciaire n'a donc pas fini d'empoisonner l'agenda d'Emmanuel Macron. Au Canada, l'enquête nationale sur les femmes autochtones disparues ou assassinées a commencé officiellement ses travaux cette semaine. Benoît Audet, le début des travaux de cette commission était très attendu.
Oui, c'était une promesse du gouvernement Trudeau pendant la campagne électorale de 2015. Le but de l'enquête est de tenter de faire la lumière sur ces femmes autochtones qui ont été tuées ou encore qui sont disparues sans laisser de traces. On ne sait pas combien il y en a. Les estimations vont de 1 000 à 4 000 femmes partout au pays.
Benoît, la commission commence à peine et déjà, elle fait l'objet de nombreuses critiques.
La lenteur des travaux est une grande source de frustration pour les Autochtones. On dénonce aussi le manque de communication des responsables de la commission. Je vous fais entendre à ce sujet la commissaire Michèle Audette.
Je crois qu'aujourd'hui, on va être en mesure de vous démontrer qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de travail et que là, on est au mode audience et que les audiences vont se faire dans le respect du choix de la famille ou des survivants et survivantes.
Malgré les critiques, Benoît Audet, la commission a donc commencé à entendre ses premiers témoins.
Oui, dans le territoire du Yukon, il y a eu de nombreux témoignages poignants de la part de familles autochtones qui ont perdu une fille, une sœur ou encore une amie. La commission prévoit siéger pendant 2 ans et parcourir le pays pour recueillir des témoignages pour les peuples autochtones. Ce sera un passage difficile mais nécessaire.
La Belgique, Nathalie De Vic, la Belgique prépare un grand hommage à un de ses athlètes, le plus grand cycliste de l'histoire, Eddy Merckx.
Oui, à l'occasion du Tour de France 2019, qui partira de Bruxelles, histoire de marquer les 50 ans de la première victoire de notre champion sur la Grande Boucle, avec une deuxième étape, un contre-la-montre également bruxelloise. Le Tour de France et notre pays, c'est depuis toujours une grande histoire d'amour, depuis Eddy surtout, que les organisateurs tenaient à honorer, saluant ses qualités humaines, sa belle humilité. Un Eddy Merckx très ému de voir sa ville et sa carrière ainsi récompensées.
Endosser pour la première fois le maillot jaune, c'est un rêve d'enfant qui se réalise, mais surtout la dernière fois à Vincennes, donc ça reste pour moi la plus belle victoire de ma carrière.
Une carrière pourtant riche de bien d'autres victoires, 625 courses remportées en 13 ans, record qui lui a valu son surnom de cannibale, un insatiable appétit de gagne, 5 Tours de France, autant d'Italie, un d'Espagne, 3 championnats du monde. Mais pour Yvan Mayer, le bourgmestre, maire de Bruxelles, cet hommage n'est pas l'unique raison de ce départ bruxellois. Il y a aussi la volonté de redorer le blason de notre capitale, en perte de vitesse auprès des touristes depuis les attentats, un peu comme Paris, qui comme toujours bouclera la boucle.
Avec Anne Hidalgo, la maire de Paris, après les attentats que nous avons vécus à Paris et à Bruxelles, on s'était dit qu'il fallait travailler à unir nos villes de manière positive, pour nos citoyens et redonner confiance. Et quoi de mieux qu'un événement sportif ? On s'est dit Bruxelles-Paris, mais qu'est-ce qui peut relier Bruxelles-Paris ? La plus belle course cycliste du monde, le Tour de France.
Budget estimé 5 millions d'euros qui devrait être vite rentabilisé. Surtout que l'édition 2019 sera l'occasion d'un triple anniversaire, puisque le Tour célébrera également le centenaire de la naissance du maillot jaune et qu'Eddy Merckx fêtera lui ses 74 printemps. Merckx, une légende vivante, ancrée dans la culture populaire bien au-delà de nos frontières. Souvenez-vous, dans les aventures de Rabbi Jacob, Louis de Funès en avait fait l'auteur de cette grandiose citation du Che : la révolution est comme une bicyclette, quand elle n'avance pas, elle tombe. Comment dire mieux ?
L'actualité en Suisse, Pierre Anchoffa, chez vous, à nouveau, il est question d'avions de combat.
À nouveau, car vous vous souvenez peut-être que les citoyens, toujours prêts à soutenir leur armée, avaient balayé en votation l'achat de 22 jets Gripen pour la défense aérienne. C'était il y a 3 ans. Cause de cet échec cuisant pour le ministre de l'époque, les gros doutes sur la nécessité de moderniser la flotte en l'absence d'une vision claire de la menace et donc de la mission donnée à l'armée de l'air.
Pierran, le nouveau ministre de la Défense a par conséquent changé la méthodologie.
Exactement, Guy Parmelin, UDC comme son prédécesseur, prépare le terrain. Le Parlement ne devrait trancher que dans 5 ans, mais le débat public est déjà lancé, car sur mandat du ministre de la Défense, 2 groupes de travail, les experts militaires d'un côté, un groupe d'accompagnement politique de l'autre, ont rendu chacun leur rapport cette semaine. Échelonnés entre 20 et 70 nouveaux avions, les variantes sont larges, mais à chaque scénario correspond l'ampleur des missions que la défense aérienne pourrait accomplir. Les politiques pourront donc décider en connaissance de cause. Vice-président du Parti démocrate chrétien, Yannick Butet est convaincu par cette stratégie pédagogique.
J'ai l'impression que la transparence est bien meilleure, c'est l'élément essentiel, que la population ait confiance dans le projet qui lui est proposé. Et puis j'ai quand même bon espoir, cette fois-ci, que le chef de département qui a changé s'engage à fond pour cet avion dont nous avons besoin. Parce qu'on ne peut pas assurer une sécurité au sol, la sécurité de nos concitoyennes et concitoyens, si l'espace aérien n'est pas suffisamment sûr.
La bataille politique devrait donc se focaliser sur les missions plutôt que sur le type d'avion de combat et Guy Parmelin disposait de bien meilleurs arguments s'il devait au final convaincre le peuple d'acheter de tels appareils.
C'était l'actualité francophone. Merci de nous être fidèles. À la semaine prochaine et retrouvez-nous sur notre site lesmediafrancophones.org.